Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Lueur d'espoir pour les Kinois, peut-être vers le retour à la normale dans la distribution des carburants à Kinshasa, annonce le ministère des Hydrocarbures. Décision prise hier à l'issue d'une réunion présidée par le ministre Didier Boudimbou avec les sociétés de la logistique pétrolière. Santé, des cas suspects de méningite signalés depuis début août dernier à Mangui, dans le territoire de Banalia, province de la Tchopo. Au moins 60 cas déjà enregistrés, dont 15 décès, signale le médecin-chef de zone de santé de Banalia. Et puis, l'invité de ce matin, Christophe Vogel, chercheur, il vient de publier un ouvrage intitulé « Minerais de conflit » qui constate l'échec de la lutte contre les minerais dits de sang. Il estime qu'il faudrait notamment revoir la répartition du coût de la traçabilité qui incombe à ce jour uniquement aux exportateurs congolais. Madame, Messieurs, bonjour. Pénurie de carburant à Kinshasa. Le ministère des Hydrocarbures annonce le retour à la normale dans le processus de la distribution des carburants dans la capitale avec 1300 mètres cubes par jour, ce depuis hier vendredi. Cette décision a été prise hier même à la suite d'une réunion présidée par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbou avec les sociétés de la logistique pétrolière, à savoir CEP et les Rexcom, afin d'augmenter le volume de l'essence à distribuer à la pompe. Cette décision met donc fin au plan de contingence qui avait été mis en place par le ministère des Hydrocarbures en concertation avec les entreprises du secteur pétrolier pour éviter la rupture totale des stocks d'essence. Selon le ministre Didier Boudimbou, cette augmentation de la distribution fait suite à l'arrivée imminente le 11 septembre en cours d'un autre bateau de la commande de 28 000 tonnes métriques d'essence achetée par le gouvernement, indique le compte Twitter du ministère des Hydrocarbures. Entre-temps, la pénurie des carburant a entraîné une perturbation des vols programmés par certaines compagnies aériennes desservant les provinces de la RDC. À Goma, au Nord Kivu, les vols sont perturbés depuis des semaines. Le cas de la compagnie aérienne d'aviation CAA notamment, dont des dizaines de passagers ont été débarqués à maintes reprises. Une situation due à la carence du carburant sur l'ensemble du pays, explique le gouverneur du Nord Kivu. Il rassure tout de même que le problème sera bientôt décanté. En attendant, les voyageurs sont inquiets et en colère. Reportage.
Angoisse, lamentation, désolation, colère, c'est ce qu'on pouvait lire sur les visages de ces passagers débarqués pour la troisième fois consécutive. Hier jeudi, quelques passagers de la compagnie aérienne CAA ont pris d'assaut l'aéroport de Goma. Ces voyageurs, les uns à destination de Kinshasa et d'autres de Lubumbashi, déclarent avoir payé les billets depuis une semaine maintenant. Mais arrivés à l'aéroport, pas de vol pour les ramener à leur destination respective. Ces passagers évoquent les problèmes de prise en charge.
L'ordinaire de lui en tant que gouverneur peut nous rassurer si nous pouvons aujourd'hui avoir où dormir, où manger et jusqu'au jour où nous allons partir de cette province.
Voilà. Une situation qui cause des ennuis pour certains qui avaient des rendez-vous de service, comme en témoigne cette dame.
C'est pas un jeu parce que ça impacte sur tous les niveaux. Finance, au niveau du temps, quand on débarque quelqu'un, il doit loger où, je ne sais pas. C'est vraiment perturbant que CAA puisse se mettre dans le bain de ses passagers et voir comment mettre de l'ordre dans leur façon de faire.
Les responsables les DCAA à Goma qui reconnaissent les problèmes apaisent les voyageurs.
Je vais présenter d'abord les excuses au nom de la compagnie. Ce que moi je vais vous demander, c'est demander votre patience. Ce qui existe, c'est procéder au remboursement. Ce n'est pas notre souhait. Mais dire que je vais vous rendre en charge, ça serait vous dire non.
Et face à ces cris d'alarme, les gouverneurs des provinces leur demandent de prendre leur mal en patience.
Dans l'actualité aussi, les agents du parc agro-industriel de Bukangalonzo disent accuser 15 mois d'arriéré de salaire. Cette situation a même fait l'objet d'un sit-in jeudi devant la primature. Ils sollicitent l'implication des autorités, notamment le Premier ministre, pour décanter cette situation et enquêter sur d'autres irrégularités constatées au sein de ce patrimoine de l'État. Patrick Chibangu, l'un des représentants de ces agents, explique leur ras-le-bol au micro de Grace Amzati.
Nous avons 15 mois de salaire non payé et ces impayements entraînent une précarité et nous sommes devenus irresponsables vis-à-vis de nos familles et de nos enfants qui n'ont pas repris le chemin de l'école comme leurs amis. L'actuel ministre avait ordonné la vente de maïs en graines et en farine pour pallier aux arriérés de salaire, mais rien de tout cela n'a été fait. Et pourtant, nos maïs ont servi la ville de Kinshasa. Et ici aussi de vous signaler que plus de 50 containers logés à Maluku et bien d'autres matériels sont vendus. Des équipements agricoles sont mis en location et le montant initial avoisine les 50 000 $. Cet argent pouvait servir à payer ne fût-ce que quelques agents parce que nous avons des agents qui sont payés autour de 100 $. Comme conséquence de tout cela, le parc agro-industriel de Bukangalonzo n'a pas produit cette année. Le parc a fait 3 hectares de manioc, ce qui est vraiment insignifiant pour un parc qui a 80 000 hectares arables.
Contacté à ce sujet, le coordonnateur adjoint du projet Bukangalonzo, Ogi Essebe, indique qu'il s'agit plutôt de 6 mois de leur ancien contrat et non 15, car ces agents ne travaillent plus depuis janvier 2022 et n'ont plus de contrat. Toutefois, leur dossier a été pris en compte par le ministre des Finances. D'autres accusations sont fausses, ajoute Essebe Guy. Économie toujours. La monnaie congolaise ne cesse de perdre de sa valeur face au dollar américain depuis plus d'une semaine. Un dollar américain équivaut à 2100 francs congolais alors qu'il équivalait à 2030 francs il y a une semaine environ. La carence du dollar américain en est la cause, nous dit un cambiste du marché central de Kinshasa. Quelles mesures pourraient amener à la stabilisation de la monnaie congolaise? Tentative de réponse dans ce reportage de Innocent Fadili.
Dans les rues de Kinshasa, auprès d'échangeurs des monnaies, la dépréciation est confirmée. Si un dollar est échangé à 2000 francs congolais il y a plus d'une semaine, aujourd'hui il équivaut à 2050 francs congolais au quartier périphérique. Au marché central, un dollar échangé entre 2090 et 2100 francs congolais, tandis qu'il faut entre 2130 francs et 2150 francs à l'achat. Cette situation est causée par l'abondance des francs congolais par rapport au dollar américain, comme le dit ce changeur des monnaies que nous avons approché au marché central de Kinshasa.
Cela est dit normalement sur les termes économiques, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a une forte demande de devises, mais il n'y a pas de devises. Même la banque ne dispose pas assez de devises.
Cette dépréciation entraîne évidemment la hausse des prix des biens de première nécessité tels que le riz, la farine de maïs, l'huile végétale, le sucre, le savon. De son côté, le professeur Noël Tiani Mwadianvita, expert en économie monétaire, propose à la Banque centrale du Congo de sauver la situation avant qu'elle s'empire.
Et la Banque centrale du Congo, en tant qu'autorité monétaire, doit intervenir en injectant des dollars sur le marché d'échange et en achetant les francs congolais dont l'abondance dans l'économie est notable.
Signalons que le taux officiel de la Banque centrale du Congo, 2034 francs pour un dollar, n'est pas toujours respecté par les cambistes.
Les délégués et experts des pays membres de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, ont signé le jeudi 8 septembre à Kinshasa l'accord portant statut de cette force régionale. C'était en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Cette force devra bientôt se déployer dans l'Est de la RDC pour y restaurer la stabilité, la paix et la sécurité. S'agissant du déploiement de la force régionale dans l'Est de la RDC, cette mission avait pour objectif avant tout d'avoir les premiers échanges avec les officiels congolais sur les modalités pratiques de ce déploiement. C'est ce que déclare Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État. Selon lui, le terrain est désormais balisé pour que les contingents des pays qui ont accepté de se joindre au FARDC et à la MONUSCO puissent venir traquer les forces négatives qui insécurisent la partie est de la RDC. On écoute Serge Tshibangu.
Vous avez suivi hier la signature de l'accord sur le statut de la force. Alors, ceci maintenant ouvre la voie à un grand déploiement de toute la force, selon les structures qu'ils avaient données. Ce déploiement est imminent.
On n'a pas une date, on n'a pas de mois.
Vous pensez vraiment que si j'avais la date, je vous l'aurais donnée? C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Le gouvernement également est en train de travailler, mais en premier, le chef de l'État est en train de ne ménager aucun effort pour que les FARDC en appui avec la force régionale et bien sûr la MONUSCO également. N'oublions pas que la MONUSCO travaille également sur terrain. La MONUSCO continue à travailler aux côtés des FARDC pour éradiquer ces forces négatives. Donc nous pensons que c'est une question de semaine, une question de mois pour pouvoir résoudre ce problème et ramener au pays et dans leur maison nos populations déplacées et meurtries.
Notons que les travaux de la mission économique de l'EAC, ouverts mercredi à Béatrice Hôtel à Kinshasa, se sont clôturés hier vendredi. Autre nouvelle, le chef de l'État est attendu à Kananga, au Kasaï central ce week-end. Félix-Antoine Tshisekedi y va pour lancer les travaux de la route Kananga-Kalambambouji, une voie d'intérêt économique pour le Kasaï central. Déjà dans la ville, les différentes délégations, les personnalités qui arrivent et toutes les forces vives s'immobilisent. François Kadima nous en parle.
C'est une ville qui devient de plus en plus mouvementée avec la présence des différentes délégations et personnalités. L'arrivée du chef de l'État Kananga avait été annoncée il y a quelques jours par le gouverneur du Kasa Central à la suite d'une audience lui accordée par le président de la République à Kinshasa. Félix Tshisekedi va lancer les travaux de la route Kananga-Kalamambouji, avait indiqué John Kabea. Déjà, les Beseko avaient signé un protocole d'accord avec le ministère de ZTPR pour la réhabilitation et la modernisation de cette ligne. Par la suite, l'entreprise Towa Investissement a été sélectionné pour cette fin. Kananga-Kalamambouji est une route d'espoir pour le centre kassaïen. Ils veulent voir le chef de l'État non seulement lancer les travaux, mais aussi veiller pour qu'ils finissent rapidement afin de permettre à cette route d'intérêt économique de relancer le développement du Kassaï. Longue de plus de 200 km, cette route facilite les transactions commerciales entre la RDC et l'Angola via les provinces de Lunda Norte et du Kasaï Central. Elle donne également accès à l'océan Atlantique par les ports de Lobito. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Direction la province de la Tchopo. Des cas suspects de méningite sont signalés depuis août dernier dans la localité minière de Mangi, territoire de Banalia. Nous sommes à 128 km au nord de Kisangani. Au moins 60 cas ont déjà été enregistrés, dont 15 décès, affirme le médecin chef de zone de santé de Banalia. Le docteur Patrick Mbengalikita déclare avoir déjà mobilisé son équipe pour faire le suivi des cas, principalement dans l'aire de santé de Mangi. Il parle ici de la prise en charge des malades ainsi que des causes de la recrudescence de cette maladie. Le docteur Patrick Mbenga, joint au téléphone par Jacques Moukonkole.
Dans l'aire de santé de Mangi, nous avons des cas suspects de méningite. Nous avons jusque-là 60 cas et 15 décès. Et nous essayons de prendre en charge les cas. On a eu quelques médicaments de l'OMS et nous faisons des ponctions lombaires et on essaie de prendre en charge les cas pour limiter les dégâts, sinon on aurait beaucoup de morts.
Docteur Patrick, qu'est-ce qui expliquerait la réapparition de cette maladie?
Il y a une grande mobilité de la population. Pour avoir la couverture, il faudrait avoir un minimum de 90% de la population qui est vaccinée pour que la population ordinaire de santé soit protégée. Mais malheureusement, 25% de cette population bouge à tout moment, ce qui fait que la population n'a pas d'immunité collective due à cette mobilité importante de cette population. Et puis c'est un milieu enclavé. La vaccination de routine ne se déroule pas normalement. Il n'y a pas de chaîne de froid. Les conditions difficiles de travail et l'enclavement font partie des facteurs qui expliquent cette recrudescence.
Le médecin chef de zone de santé de Banalia ajoute que cette situation intervient 8 mois après la déclaration par le gouvernement congolais de la fin de l'épidémie de méningite dans cette entité. Cette épidémie avait causé 205 décès sur les 2602 malades enregistrés. Par ailleurs, l'administrateur de Banalia, qui est aussi président du comité local de coordination, affirme que les partenaires sont déjà informés de cette situation et se préparent pour une mission sur le terrain. Kasaï Oriental, un élu du territoire de Katanda, appelle la population au calme et à la cohabitation pacifique. C'est après l'incendie mercredi de la résidence de l'administrateur de ce territoire. Le député national Ntumba Tshabola Bintou appelle le premier ministre et ministre de l'Intérieur à prendre des mesures rapides, comme ça a été fait dans le territoire de Kwamout, pour mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré. On écoute le député Ntumba Tshabola Bintou, élu de Katanda, joint par Pierrot et la Menji.
Nous demandons avec insistance au gouvernement central et principalement au Premier ministre, au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de s'impliquer dans la résolution de la question sécuritaire à Katanda de la même manière qu'il s'implique dans la résolution de la question sécuritaire de l'Est de notre pays, de Kwamout dans le grand Bandundu. Partout, ce sont des Congolais qui meurent. Ils méritent tous la même compassion et l'assistance du gouvernement central. Pas plus tard que ce mercredi 7 septembre 2022, on a tué une personne dans les champs à Benakabea. Il s'agissait de M. Chibindji Kajima Kawoja, dans le secteur de Balubalubilange. La résidence de l'administrateur du territoire a été brûlée avec tous ses effets. Actuellement, l'administrateur du territoire n'a plus de résidence. À mes compatriotes de Katanda qui habitent le secteur de Balubalubilange, en conflit, notamment les Bena Mwimbia, les Bena Kapuya et Bena Shimba. Nous vous exhortons à vivre en paix, en harmonie et de cohabiter de manière pacifique. Pourquoi tuer votre frère? Pourquoi tuer votre sœur avec qui vous vivez ensemble? Arrêtez ces conflits inutiles qui retarde le développement de notre territoire.
Et puis, pacte éducatif africain pour la concrétisation africaine du projet du pape François, c'est le thème du symposium international de Kinshasa qui ouvrira ses portes du 2 au 5 novembre 2022 à Kinshasa, à l'Université catholique du Congo, UCC. À ce propos, un point de presse a été organisé hier par le corps académique de l'UCC, présidé par l'abbé Léonard Santedi. Des précisions avec Kelly Yoka.
Le point de presse du corps académique de l'Université catholique du Congo s'est tenu autour du thème « Pacte éducatif africain pour une concrétisation africaine du projet du pape François du symposium international de Kinshasa prévu en novembre prochain. »
Vous savez que l'éducation, c'est un laboratoire d'humanisation. C'est l'éducation qui forme des hommes et des femmes qui doivent gérer nos sociétés, non pas seulement le Congo, mais l'Afrique, mais l'humanité. Alors, quel type d'hommes nous devons former? Quels sont les défis, les problèmes qui se posent aujourd'hui dans notre humanité? Voilà pourquoi le pape François a lancé le projet du pacte éducatif mondial avec des hommes de tous bords.
Notez que ce symposium international de Kinshasa est une initiative de la Fondation internationale Religion et Société en collaboration avec l'Université catholique du Congo.
Actualité internationale.
Lors de sa première allocution comme monarque, Charles III a promis de servir les Britanniques toute sa vie avec loyauté, respect et amour. Il a également nommé son héritier prince de Galles tout en témoignant sa tendresse à son autre fils ainsi qu'à sa défunte mère, la reine Elisabeth II. Au Mali, des dizaines de civils ont été tués cette semaine dans une localité du nord du pays, attaquée par des djihadistes affiliés à l'organisation État islamique qui étend son rayon d'action au prix des nombreuses exactions ont indiqué des responsables locaux. C'est la première fois que Talatay, environ 150 km de Gao, subit une attaque d'une telle envergure du groupe État islamique au Grand Sahara.
L'invité.
Les initiatives de traçabilité et de certification des minerais ne bénéficient pas aux populations locales affectées par les activités minières. C'est l'une des conclusions du livre intitulé « Minerais de conflit » qui constate l'échec de la lutte contre les minerais dits de sang. Le chercheur Christophe Vogel, auteur de cet ouvrage qui vient de paraître, estime qu'il faudrait entre autres revoir la répartition du coût de la traçabilité qui incombe à ce jour uniquement aux exportateurs congolais. Christophe Vogel s'entretient avec Cynthia Bachizi.
Christophe Vogel, bonjour.
Bonjour.
Votre livre constate l'échec des multinationales dans leur combat contre les minerais dits de sang. Quels sont les faits qui sous-tendent votre conclusion?
Il y a des programmes qui ont été mis en place depuis environ 10 ans. Ces lois, comme la loi américaine Dodd-Frank, les systèmes de traçabilité et de certification qui sont intervenus sur base de cette idée que les guerres au Congo sont uniquement à cause de l'exploitation minière, pour combattre ce qu'on appelle les minerais de conflit ou le commerce avec ces minerais. Et puis ce combat a été un peu vendu à la fois à la population congolaise, mais aussi au public international comme un peu la solution magique contre l'insécurité, les violences dans cette région. Et une décennie après la mise en place de ces initiatives, on voit plus ou moins que les statistiques de violation de droits de l'homme, les activités des différents groupes armés n'ont pas vraiment baissé. Deuxièmement, ces programmes ont été aussi vendus comme des programmes qui peuvent améliorer le social et la situation économique de la population qui travaille dans les mines et autour de mines. Et là, on constate aussi que, justement, en ce qui concerne le domaine de l'éducation, en ce qui concerne le domaine social de manière plus vaste, les populations n'ont pas bénéficié des promesses qui ont été faites dans le cadre de ces programmes RDC.
C'est très intéressant ce que vous dites par rapport à la guerre, parce que ici, surtout à l'Est, on a toujours tendance à lier la guerre à l'exploitation minière. C'est assez intéressant de lire dans votre livre que la racine de la guerre n'est pas que l'exploitation minière, mais il y a aussi des facteurs exogènes et endogènes. Est-ce que vous pouvez les citer brièvement?
Oui, pour dire une chose, le début de la séquence des différentes guerres qu'on connaît aujourd'hui et qui n'a malheureusement pas encore pris fin, on peut la localiser en 1993. Pour ceux qui connaissent, il y avait une guerre dans le territoire de Masisi qu'on appelle la guerre de Ntoto. C'est un peu le précurseur d'une séquence d'autres conflits. Et puis, donc ça c'était en 1993, lorsque le coltan et d'autres minéraux ont trouvé une importance plus grande pour la première fois uniquement en 1999, donc 6 ans après. Donc il est déjà au niveau de l'écart du temps, il est logiquement impossible que les minéraux sont au début et à la racine des guerres. Mais par contre, le livre ne dit pas que les minéraux n'ont rien à voir avec la guerre. On sait tous que...
C'est une partie du problème.
C'est une partie. On sait tous aussi, pour faire la guerre, il faut des ressources, de revenus. Beaucoup de populations aujourd'hui savent exactement que des groupes armés qui existent aujourd'hui et certains qui ont existé dans le temps ne sont pas forcément dans les mines. Ils mettent des barrières routières, ils sont dans la taxation illégale, etc. Il y a certains qui font le macala. Du point de vue d'un groupe armé, ça ne joue pas un rôle prépondérant si l'argent provient des mines ou il provient d'une barrière routière. L'essentiel, c'est de gagner de l'argent pour financer la guerre.
Donc le problème est vraiment systémique. Pour terminer, vous dites donc que des systèmes de traçabilité ou la loi d'Haute-Franque, tout ça est contre-productif. Quelle est l'alternative que vous vous proposez?
Alors, je pense que d'abord, ces initiatives, ils ne sont pas contre-productifs en tant que tels, mais la manière dont ils ont été mis en place et implémentés est contre-productive, au moins en ce qui concerne le bien-être et le développement des populations ici. C'est pas du tout contre-productif pour ceux qui
s'approvisionnent. Et qu'est-ce qu'il faudrait revoir alors? Vous avez parlé du coût de la répartition de toutes ces initiatives.
Exactement. Alors, le coût de la traçabilité, peut-être pour répéter, c'est la traçabilité dont je parle, c'est essentiellement pour le coltan, la castérite et la wolframite, parce que...
Non, pour les 3T. Hein.
Les 3T. Puis ce système est de facto payé par les travailleurs et travailleuses congolaises. Parce que les multinationales, les entreprises ont simplement refusé de tenir ce système. Et je pense qu'il est très important d'avoir une émancipation de la RDC, de la population, mais aussi de... Ça ne suffira pas. Il faut vraiment aussi essayer de faire des coalitions, d'être ensemble à travers peut-être l'Afrique entière, de faire face et de faire un lobbying qui ne fait pas les erreurs du passé.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Notre invité, le chercheur Christophe Vogel, auteur de l'ouvrage Minerais de conflit, répondait aux questions de Cynthia Bachizi. C'est la fin de ce journal mis en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci de rester des nôtres.